de la Pentecôte chrétienne. Actes chapitre 2, versets 16 à 18. Sermon prononcé à Charenton le jour de Pentecôte 1633 par Jean Mestreza. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il adviendra, dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils prophétiseront, et vos filles aussi, et vos jeunes gens verront des visions, et vos anciens feront des songes. Et en vérité, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, dont ils prophétiseront. Saint Jean, au chapitre 5e, de la première épître, dit que Jésus-Christ est venu par eau et par sang. C'est, mes frères, que deux choses étaient requises pour notre salut, à savoir la satisfaction de la justice de Dieu par mort et par sang, et le renouvellement de nos âmes par le lavement de régénération. À cela tendaient toutes les cérémonies de la loi, car pour l'expiation des péchés étaient célébrés les sacrifices, qui consistaient en effusion de sang, selon que l'apôtre dit « Sans effusion de sang ne se fait aucune rémission. » Et Dieu avait dit « Je vous ai ordonné que le sang soit mis sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fera propitiation pour l'âme. » Et quant au renouvellement de nos âmes par le lavement de régénération, pour le signifier, étaient institués les lavements d'eau, comme dans le Lévitique, chapitre 17, vous voyez que si quelqu'un était souillé, il fallait qu'il lavât d'eau et ses vêtements et sa chair. Cette double efficacité et puissance se trouve en Jésus-Christ. En tant qu'il a expié nos péchés par son sang et qu'il renouvelle nos âmes par l'eau de son esprit. Et pour ce mystère, sortir de son côté, quand il rendit l'esprit en la croix, eau et sang, à savoir pour montrer qu'en Jésus-Christ consistait la plénitude du salut et l'accomplissement des figures de la loi. Aussi, répondent à cela les deux sacrements que Jésus-Christ a institués en son Église, à savoir le baptême, où l'eau est employée pour nous mettre devant les yeux la puissance de Christ lavant et renouvelant nos âmes par son esprit, et l'autre, instituée la veille de sa passion, où du pain est rompu et du vin est employé en figure du corps rompu et du sang répandu en la croix, pour nous mettre devant les yeux le sacrifice de Jésus-Christ par lequel nos péchés ont été expiés et la justice de Dieu satisfaite. À cette puissance et double efficacité de Jésus-Christ se rapportent les deux fêtes mystiques de la Pâque et de Pentecôte que l'Église chrétienne célèbre. En la Pâque, vous voyez Jésus-Christ venir par sang. Vous le voyez comme victime être sacrifié et répandre son sang pour l'expiation des péchés. Et en la Pentecôte, vous le voyez répandre l'eau de son esprit sur toute chair pour la nettoyer et consacrer à Dieu. De quoi la Pâque et la Pentecôte d'Israël avaient eu les figures. Car en la Pâque ancienne, un agneau avait été tué pour la rédemption des Israélites et son sang répandu pour arrêter le glaive de l'ange destructeur. Cet agneau montrant que Jésus-Christ, notre Seigneur, répandrait son sang en la croix pour notre rédemption. Et en la Pentecôte, qui fut 50 jours après la Pâque, fut donnée la loi en la montagne de Sinaï. Or, la lettre et la publication extérieure de la loi étaient figures de la puissance du Saint-Esprit qui sanctifie les âmes intérieurement. De même que les plaques de pierre sur lesquelles la loi fut écrite étaient figures des cœurs où opère l'Esprit de Dieu, comme saint Paul le montre dans 2 Corinthiens chapitre 3, disant qu'il est ministre du Nouveau Testament, non pas de lettres, mais d'esprit, et que les fidèles sont l'épître de Christ, écrite non point d'encre, mais de l'esprit du Dieu vivant, non point en plaques de pierre, mais sur les plaques charnelles du cœur. De même aussi, les vents et tourbillons, le feu et le son éclatant et les tremblements de la montagne de Sinaï étaient types et figures de la puissance divine de l'Esprit de Dieu et de ses effets. Car cet Esprit est un vent qui souffle en véhémence où il veut et dont on entend le son dans les cœurs. C'est un feu céleste qui enflamme les âmes de l'amour de Dieu et une puissance qui fait trembler la pierre, donnant des émotions de repentance aux cœurs les plus endurcis, et par laquelle, au jour de la Pentecôte, lorsque Jésus-Christ envoya son Saint-Esprit, se fit un son du ciel comme d'un vent qui souffle en véhémence, lequel remplit la maison, et apparurent sur les disciples des langues de feu divisées en deux. Et comme Jésus-Christ voulut mourir pour nous en la fête de Pâques, le même jour que l'agneau avait été tué en Égypte, pour montrer qu'il accomplissait par sa mort cette figure-là, de même voulut-il envoyer son esprit 50 jours après, à savoir en la Pentecôte, le même jour auquel avait été donnée la lettre de la loi, pour montrer qu'il accomplissait aussi cette figure-là par le don de son esprit, par lequel il écrit sa loi au-dedans de nos cœurs. Donc, mes frères, puisque dernièrement nous célébrâmes la Pâque et méditâmes la mort de Jésus-Christ et l'effusion de son sang, célébrons aussi maintenant la Pentecôte, en laquelle Jésus-Christ a répandu son esprit pour le lavement de régénération et la sanctification de nos âmes. Ne te plains point, chrétien, de l'absence de Jésus-Christ par son ascension au ciel. Le voici qui vient demeurer chez toi par son esprit. Voir cet esprit et Christ habitant en toi. Ton Sauveur a vraiment élevé sa chair dans les cieux. Il comparaît là devant Dieu avec son sang, toujours frais et vivant pour intercéder pour nous, mais il envoie ici-bas son esprit pour se former en nous et vivre en nous jusqu'à ce qu'il nous élève à soi, dont il disait à ses disciples, attristés par son départ, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour demeurer avec vous éternellement, à savoir l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit et ne le connaît. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Veuille ce même esprit qui descendit au jour de la Pentecôte sur les disciples descendre encore aujourd'hui en nos cœurs par la prédication de la parole et se répandre en nos âmes par sa puissance, afin que nous soyons remplis en toute plénitude de Dieu. À cette fin, nous méditerons les paroles de l'apôtre saint Pierre adressées aux Juifs au moment que le Saint-Esprit étant descendu sur les disciples en langue de feu divisée en deux, les disciples se mirent à parler langage étrange, ainsi que l'Esprit leur donnait à parler. C'est ici, dit-il, ce qui a été dit par le prophète Joël, il adviendra dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils prophétiseront, et vos filles aussi, et vos jeunes gens verront des visions, et vos anciens feront des songes, et en vérité, en ces jours-là, je je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes dont ils prophétiseront. » Saint Pierre disait cela sur ce que le bruit étant répandu en Jérusalem des merveilles qui étaient advenues. Une multitude de Juifs de diverses régions qui étaient alors en Jérusalem étaient venus ensemble et étaient tout émus dans la mesure où chacun entendait les disciples de Jésus-Christ parler en son propre langage. Tout étonnés de cela, ils disaient l'un à l'autre : « Voici, tous ceux qui parlent ne sont-ils pas Galiléens ? Comment donc un chacun de nous les entendons-nous parler en notre propre langage auquel nous sommes nés ? Parthiens, Médiens, Élamites, et nous qui habitons en Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Ponte et Asie, Phrygie, Pamphylie, Libye. » Et les autres, se moquant, disaient : « Ils sont pleins de vin doux !» Sur quoi Pierre, se présentant avec les 11, éleva sa voix, et après avoir dit : « Ceux-ci ne sont point ivres, comme vous l'imaginez, vu qu'il est la troisième heure du jour. » Entendez là, la troisième heure à compter du lever du soleil, car ainsi les comptait-on alors. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël : « Dans les derniers jours, je répandrai. » Et cite donc cette prophétie, aimant mieux les instruire tous comme ignorants que de s'irriter contre aucun comme médisant et profane. Où d'entrée vous voyez que cet esprit est un esprit de paix, de charité et bienveillance qui supporte les injures et les offenses pour ramener les hommes à leurs devoirs et les convertir à Christ. Aussi, sur ce que saint Pierre produit les Écritures pour la conviction des Juifs, vous avez à remarquer en passant que l'Écriture était là en l'Église le principe de toutes les preuves des choses de la religion et la règle de l'état de l'Église. C'est par elle qu'il faut que les docteurs et conducteurs de l'Église justifient leurs actions et leurs conditions. Et si saint Pierre, après l'ascension de Jésus-Christ au ciel, lorsque, selon la croyance des docteurs de l'Église romaine, il avait plénitude d'autorité et de puissance, se défend et justifie par les Écritures, à savoir si ceux qui prétendent lui succéder ne seront pas obligés aujourd'hui de nous justifier leurs actions et leurs conditions par l'Écriture. Pourquoi agiront-ils envers nous avec plus d'autorité que saint Pierre même ? Mais venons à l'exposition de la prophétie de Joël citée par saint Pierre et y considérons deux points. À savoir, premièrement, comment et pourquoi la dispensation du Saint-Esprit a été remise au Nouveau Testament ? Et deuxièmement, quelle est sa puissance et son efficacité dans les fidèles ? Premier point. Le Saint-Esprit duquel nous vous parlons, comme manifesté dans les derniers jours par une particulière et extraordinaire dispensation de ses grâces, et celui qui est de toute éternité avec le Père. Il avait montré sa puissance en la création, selon qu'il est dit dans la Genèse, chapitre 1, que lorsque la terre était sans forme et vide, et que les ténèbres étaient sur le dessus de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il était donc convenable qu'en la seconde création, laquelle se devait faire dans les derniers jours, cet esprit aussi intervint. Aussi l'y voyez-vous dès le commencement du Nouveau Testament, car cet esprit qui avait été sur les eaux en la première création, à savoir pour en éclore les diverses espèces que Dieu voulait produire, le mot hébreu étant pris des oiseaux qui échauffent l'œuf, dont ils veulent éclore leurs petits, parut en forme de colombe au baptême de Jésus-Christ notre Seigneur, pour montrer qu'il venait s'étendre sur des nouvelles eaux pour en produire de nouvelles créatures. Et c'est en cette œuvre que cet esprit a voulu proprement se manifester. Pourtant, remarquez que chacune des personnes divines a voulu en certains temps et certaines manières se manifester aux hommes. Le Père s'était manifesté dès le commencement par sa création, car bien qu'il eût agi par sa parole ou sagesse, qui est le Fils, et par sa puissance, qui est le Saint-Esprit, néanmoins, la création est particulièrement attribuée au Père comme à l'origine. Le Fils avait voulu se manifester par l'incarnation, se manifestant en chair, et souffrant et ressuscitant en celle-ci. Restait donc, en troisième lieu, la manifestation de la troisième personne, à savoir du Saint-Esprit, à savoir manifestation en dons miraculeux et en des degrés de connaissance et intelligence répandus sur les hommes au-dessus de tout ce qui avait été auparavant. Et c'est cette troisième économie après laquelle, n'y ayant plus aucune, ceux qui l'auront absolument rejetée ne peuvent avoir rémission de leurs péchés. Les Juifs avaient pu obtenir pardon après avoir péché contre l'économie du Père et contre la manifestation du Fils, mais péchant contre la manifestation du Saint-Esprit, il ne restait plus d'économie pour leur salut et à cause de cela, aucune espérance de pardon. C'est pourquoi Jésus leur expliquer la différence entre péché contre le Père et le Fils et péché contre le Saint-Esprit. Cet Esprit était la troisième personne de la Sacrée Trinité, donc il fallait que sa manifestation fût la dernière, c'est-à-dire fût après celle du Fils. Et pour cette raison aussi, le Saint-Esprit n'a été envoyé du ciel qu'après que Jésus-Christ, ayant parachevé l'œuvre de la rédemption, fut monté au ciel et entré dans le sanctuaire devant la face de Dieu, là où son sacrifice étant agréé et accepté du Père, il lui fut donné de répandre le Saint-Esprit sur les hommes. Ajoutez qu'il fallait que la manifestation du Saint-Esprit fût en des actions qui fussent en ordre après celles du Fils. Or, il y avait comme trois degrés et trois actions en l'œuvre du salut. L'une, qu'il nous fut procuré et ordonné, ce que le Père a fait en envoyant son Fils. La seconde, qu'il nous fut acquis et mérité, ce que le Fils a fait en se présentant en sacrifice pour nous. Et la troisième, qu'il nous fut appliqué, c'est-à-dire que nous reçussions ce salut croyant en Jésus-Christ, et c'est en quoi le Saint-Esprit devait agir, car nous demeurions en la mort si, après que le Fils s'est offert à Dieu en rançon pour nos péchés, ce salut ne nous était présenté et manifesté par l'Évangile, et si nos yeux n'étaient illuminés et nos cœurs amollis pour le recevoir. Cette troisième action donc, de manifester Jésus-Christ par la prédication de l'Évangile et disposer nos esprits à le recevoir, est l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, apparut en langue divisée de feu. En langue, parce qu'il était l'auteur de la prédication. En langue divisée, parce que la prédication s'allait faire à diversité de langues et nations. Et langue de feu, parce que le feu éclairant et échauffant est la convenable figure de cet esprit qui illumine les entendements et meut les volontés. Dans cette troisième action du salut, nous agissons, le Saint-Esprit nous faisant agir. Car nous croyons et nous nous convertissons à Dieu par la puissance et l'efficacité de sa grâce. Mais quant à l'action de mériter le salut et satisfaire à Dieu, qui est l'action du Fils, celle-là, chrétien, s'est faite sans toi. C'était en la croix que cela s'est fait, où nul homme n'est intervenu avec Jésus-Christ. C'est donc en l'application du salut qu'il faut que tu agisses. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit t'ait donné. Car la foi et la repentance, quoique provenant de la puissance du Saint-Esprit, sont les actions et les fonctions de ton entendement et de ta volonté. Ô économie admirable du salut et ordre exquis de la sagesse de Dieu. Ici tu vois, chrétien, l'obligation que tu as de ton salut au Saint-Esprit, et sache que toutes les fois que tu dis au symbole des apôtres « Je crois au Saint-Esprit », c'est comme si tu faisais cette confession « Je reconnais que je ne puis rien de moi-même, mais que c'est le Saint-Esprit qui produit en moi le vouloir et le parfaire qui me donne de croire en Jésus-Christ et de me convertir à lui, surmontant l'aveuglement naturel de mon entendement et l'endurcissement de mon cœur. » Et me vient ici en mémoire la confession que chaque Israélite devait faire en apportant à Dieu les prémices de la terre de Canaan. Car lorsque l'Israélite présentait au sacrificateur la corbeille de ses fruits, il disait « Mon père a été un pauvre misérable Syrien et est descendu en Égypte, où les Égyptiens ont mis sur nous une dure servitude. L'Éternel nous a tirés hors d'Égypte par la main forte et le bras étendu, et nous a amenés en ce pays ici, découlant en lait et en miel. Maintenant, donc, voici, j'ai apporté les prémices des fruits de la terre que tu m'as donnée, ô Éternel. » De même, nous devons reconnaître que nous étions misérables pécheurs, nés et conçus en iniquité, asservis au vice et au monde, mais que Dieu nous a amenés à la Canaan spirituelle, abondante en fruits de son esprit, et pourtant lui en donnant toute la louange. Car sachez que le Saint-Esprit est opposé à la nature et aux forces de celle-ci, c'est-à-dire à tout ce que nous avons de la génération d'Adam, selon que dit Jésus-Christ en Jean chapitre 3, que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, la chair est inimitié contre Dieu et n'est point sujette à la loi de Dieu et ne peut, dit saint Paul dans son épître aux Romains au chapitre 8. C'est pourquoi saint Jean dit que ceux qui ont cru en Jésus-Christ ne sont point nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Et Jésus-Christ dit que si quelqu'un est né de l'Esprit, il ne peut entrer au royaume de Dieu. Ce n'est point donc le franc arbitre que nous reconnaissons pour principe de la foi et de notre conversion, mais le Saint-Esprit. Et disons avec l'apôtre, qui dit dans son épître aux Romains, au chapitre 8, que la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous affranchit de la loi de péché et de mort. De surcroît, il était convenable que, puisque la nouvelle alliance était réservée au dernier jour, la dispensation du Saint-Esprit qui appartenait à la nouvelle alliance y fût aussi réservée. Sachez donc qu'en la nouvelle alliance, toute chose devait être spirituelle. Le service y devait être en esprit et en vérité, car c'était le temps auquel Dieu, qui est esprit, voulait être servi en esprit. Toutes les choses charnelles du culte ancien devaient prendre fin, et le royaume de Dieu devait être au-dedans, dans les cœurs, et ne devait point être viande et breuvage, mais justice, pain, paix et joie par le Saint-Esprit. Ici, la Canaan est spirituelle. Le tabernacle est un tabernacle de Dieu en esprit. La circoncision est du cœur en esprit. Les sacrifices spirituels et la vie des fidèles y doivent être spirituels, occupés non aux choses de la chair et du sang et aux éléments du monde, mais aux choses célestes, comme si déjà ils étaient combourgeois des anges et domestiques de Dieu. Il fallait donc qu'en cette alliance fût abondamment donné le Saint-Esprit. Et de fait, la nouvelle alliance ayant un meilleur fondement que l'ancienne, il fallait qu'elle dispensât de meilleurs biens. L'alliance légale avait pour fondement la délivrance d'Égypte, qui n'était qu'ombre et figure d'une rédemption éternelle de la puissance de Satan, laquelle la nouvelle alliance a pour fondement. Au lieu donc que cela ne donnait que des biens terrestres et charnels et ne se communiquait qu'en paroles et en lettres, qui n'avait pas le pouvoir de sanctifier les cœurs, celle-ci donne les biens spirituels et célestes, à savoir les grâces de l'Esprit de Dieu et la puissance de la sanctification, et c'est ce qui était prédit dans le livre de Jérémie au chapitre 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non pas selon l'alliance que je traitais avec leur père au jour que je les pris par la main pour les faire sortir hors du pays d'Égypte, laquelle alliance ils ont enfreinte. Et toutefois, je leur avais été pour mari, dit l'Éternel, car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai en leur cœur, et je leur serai Dieu, et ils me seront peuple. Et un chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni un chacun son frère, disant « Connaissez l'Éternel !» Car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, d'autant que je pardonnerai à leur iniquité, et n'auraient plus souvenance de leurs péchés. Que si vous dites, mais les fidèles de l'Ancien Testament n'ont-ils point été participants du Saint-Esprit? À cela, je réponds deux choses. La première, que la mesure qu'ils en ont reçue a été si petite à comparaison de l'abondance que Dieu communique sous le Nouveau Testament aux fidèles, que l'Écriture ne le met pas en considération, comme de fait, les choses de petite quantité sont dites n'être point à comparaison de l'abondance. L'Église étant alors en son enfance, il lui convenait une moindre mesure d'esprit et de révélation. Au reste, que les fidèles n'aient pas été destitués de l'Esprit de Dieu, vous le voyez par les effets, à savoir leur piété et foi, et par l'expresse mention qu'ils en ont faite. Comme au psaume 51, « Seigneur, ne m'ôte point l'esprit de ta sainteté. » Et au psaume 143, « Enseigne-moi à faire ta volonté, d'autant que tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise comme par un pays uni. » La deuxième chose que je réponds est que ce qu'ils ont reçu, l'esprit de Dieu, n'était pas en vertu de la loi, mais en vertu de la promesse de grâce qui était l'alliance évangélique en son germe et son commencement, par laquelle les anciens fidèles parvenaient au salut. C'est pourquoi saint Paul disait aux fidèles de son temps, en son épître aux Galates, au chapitre 3, « Celui qui vous fournit l'esprit et qui produit les vertus en vous, les fait-il par la loi ou par la prédication de la foi ?» Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, il appelle la loi le ministère de mort écrit en lettres et engravé en pierre, et l'évangile le ministère de l'esprit. Car comme l'apôtre dit dans son épître aux Galates, au chapitre 3, qu'Abraham n'a point reçu l'héritage par la loi, mais par la promesse, aussi disons-nous que ce qu'il a eu de l'esprit de Dieu a été en vertu de cette promesse, que l'apôtre là lui-même appelle l'alliance confirmée de Dieu en Christ. Mais parce que cette alliance de grâce était, sous l'Ancien Testament, couverte et n'était qu'en quelques commencements et petits rayons, aussi la dispensation de l'Esprit a dû être fort insuffisante et petite. Comme à l'opposé, sous le Nouveau Testament, Dieu a fait largement abonder sur nous sa grâce en toute sapience et intelligence, nous ayant donné à connaître le secret de sa volonté. Ici ont été révélées les choses de Dieu qui avaient été cachées en tous les âges précédents. Ici les choses qu'œil n'avait point vues et qu'oreille n'avait point entendues, et qui n'étaient point entrées en cœur d'homme, nous ont été révélées par le Saint-Esprit. Voir les choses profondes de Dieu, à savoir Jésus-Christ crucifié, en qui sont cachés les trésors de sagesse et intelligence, et en qui se voit la hauteur et profondeur, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu qui surmonte tout entendement. J'avoue qu'il y avait des rayons de ce mystère dans les écrits des prophètes, mais cela était couvert du voile des cérémonies au travers duquel le peuple d'Israël ne pouvait regarder. Mais, dit l'apôtre, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le voile est aboli par Christ, car là où est l'Esprit, là est liberté. Donc, à cause de cette abondance de dispensation de l'Esprit au Nouveau Testament, Dieu dit par Joël en notre texte, « Adviendra dans les derniers jours que je répandrai mon Esprit sur toute chair. » Car ce mot « je répandrai » marque la grande quantité des dons et de la libéralité divine. Ici, Dieu ne donne pas son esprit goutte à goutte, mais par ruisseau et par rivière, comme dans Ésaïe 44, il dit « Je répandrai des eaux sur celui qui est altéré, et des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur ta postérité, et ma bénédiction sur ceux qui sortiront de toi. » Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, Jésus-Christ dit « Qui croit en moi, comme dit l'Écriture, fleuves d'eau vive découleront de son ventre. » Et en l'évangile de Saint Jean, au chapitre 4, « Qui boira de l'eau que je lui donnerai, elle sera faite en lui une fontaine d'eau vive en vie éternelle. » Ce n'est pas que cette abondance, si vous considérez la plénitude que nous obtiendrons au siècle à venir, dans le paradis de Dieu, ne se trouve une petite mesure dont aussi l'apôtre, dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, appelle prémisse. C'est que nous avons reçu de l'Esprit, c'est-à-dire quelques petites portions. Mais à comparaison de l'Ancien Testament, c'est abondance et plénitude. De même que ce que nous avons de connaissance au regard de la révélation qui sera faite en l'état de gloire est appelé une connaissance qui n'est qu'en partie, comme par un miroir et obscurément. Et remarquez ces mots sur toute chair, toute, d'autant que Dieu appelait toutes les nations à son alliance, laquelle il avait auparavant restreinte au peuple des Juifs. Et il n'a pas voulu dire tout homme, mais toute chair, employant le mot de chair qui désigne la nature humaine au regard de la fragilité et corruption, pour faire une opposition entre la fragilité et corruption de notre nature et l'efficacité de son esprit. Ô homme, tu n'es que chair, c'est-à-dire que corruption, mais voici un être divin et spirituel qui t'est donné. Voici de quoi te changer en un homme spirituel et céleste. Ta nature et ta vie avaient été mortelles et animales. Voici l'Esprit pour te donner une nature divine, une vie éternelle, et pour un jour rendre ton corps spirituel. Par le premier homme, tu as reçu la chair, la vie animale. Mais voici le second Adam qui a été fait en esprit vivifiant. Finalement, si vous pesez bien ces mots, je répandrai mon esprit sur toute chair, vous y trouverez une petite image et un rayon du mystère de l'incarnation. Car par l'incarnation, Dieu avait été manifesté en chair. L'Esprit éternel était venu habiter en la chair. L'Esprit éternel avait pris la chair pour son domicile. Et voici ensuite, par la Pentecôte, l'Esprit répandu sur toute chair. Le voici habitant en notre chair et la prenant pour son domicile. J'avoue que c'est en une manière beaucoup au-dessus de celle dont il a habité en la chair de Christ. Mais néanmoins, c'est avec de l'analogie et semblance. selon la proportion qu'il y a du premier-né à ses frères. Ou effet admirable de la sagesse et bonté de Dieu. Réjouis-toi, cher essaim, voici la vie et l'incorruptibilité, et comme la divinité versée en toi. Comme aussi l'apôtre dit dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 3, que nous sommes remplis en toute plénitude de Dieu. Voyons donc ce que notre texte nous dit de l'efficacité de cet esprit. Deuxième point. Premièrement, remarquez au mot « je répandrai » la comparaison du Saint-Esprit à de l'eau, comme au prophète Ézéchiel au chapitre 36. « Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez nettoyés. » Que si vous dites « mais le Saint-Esprit a paru en feu, comment donc le comparer à de l'eau ?» Je réponds que telle est l'efficacité du Saint-Esprit qui peut soutenir la comparaison de toutes les forces des choses créées. Car les choses créées ont leur efficacité déterminée et bornée. Mais cet esprit a une perfection infinie. Il est feu, il est vent, il est eau, il est toute chose. Il est feu par le pouvoir qu'il a d'échauffé les cœurs en l'amour de Dieu et d'y consumer les convoitises et ordures de péché. Il est vent en purifiant nos âmes, car le vent purifie l'air et nettoie les plantes. Il est encore vent par sa force, abattant tout ce qui s'oppose à sa puissance. Il est eau par le pouvoir qu'il a de nous faire naître à Dieu et de laver les âmes de leur corruption et de les rafraîchir en consolation. Voici, chrétiens, le mystère des fleuves du paradis terrestre. Car l'Église chrétienne est l'Éden de Dieu, selon qu'il est dit chez le prophète Ésaïe au chapitre 58, « Tu seras comme un jardin arrosé et comme une source d'eau de laquelle les eaux ne défaillent point. » Voici le mystère des eaux qui suivirent le peuple d'Israël au milieu des ardeurs et des sécheresses du désert. De ces eaux, dis-je, qui sortirent de la pierre frappée de la verge de Moïse, car la pierre était Christ. Lequel, frappé une fois en la croix de la condamnation de la loi, a été fait une source éternelle d'esprit de vie, pour abreuver et rafraîchir son Israël au milieu des ardeurs et sécheresses de ce monde. Êtes-vous, ô homme, comme une plante aride, asséchée et morte? Voici une eau divine pour vous faire renaître, reverdir et renouveler. Votre aridité naturelle sera changée en puissance et fécondité par cette eau. Et partant, si l'eau de ce monde est le principe de la génération des plantes en la nature, voici le principe d'une génération céleste. C'est pourquoi saint Paul dit, dans son épître à Tite, au chapitre 3, que Dieu nous a sauvés par le lavement de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Avez-vous soif de justice et de vie? Voici les eaux de vie et sanctification, selon que disait Jésus-Christ. Qui boira l'eau que je lui donnerai et sera faite en lui une source d'eau vive en vie éternelle? Si quelqu'un a soif, qui vienne à moi et boive. Demande en ta soif à Jésus-Christ son esprit et il te sera donné. Holà! Ou tout ce qui est altéré, venez aux eaux, disait le Christ en Ésaïe. Et saint Paul vous dit que nous avons tous été abreuvés d'un esprit. Ô homme qui a bu l'iniquité comme l'eau, viens à ce breuvage. Ces mêmes eaux sont cette source dont il est parlé dans le livre de Zacharie au chapitre 13, à savoir qu'il y aura une source ouverte à la maison d'Israël et aux habitants de Jérusalem pour le péché et pour quand on aura été séparé à cause de quelques souillures. Car les fonctions de la repentance et du renoncement à nous-mêmes, auxquelles il faut s'appliquer continuellement, sont ce lavement, selon que disait l'apôtre en Ésaïe chapitre 1. Lavez-vous, soyez purs, Ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions. Cessez de mal faire. Apprenez à bien faire. Mais voici principalement les faits que le Seigneur promet de cet esprit. C'est, dit-il, que vos fils prophétiseront, et vos filles aussi, et vos jeunes gens verront des visions, et vos anciens feront des songes. Les songes et visions étaient moyens par lesquels Dieu se communiquait jadis à ses prophètes. Ainsi qu'il est dit dans le livre des Nombres, au chapitre 12, que s'il y avait un prophète en Israël, Dieu se communiquait à lui par songes et visions. Partant, le Seigneur veut dire par cette façon de parler qu'au Nouveau Testament, tous seront prophètes, c'est-à-dire que Dieu se communiquera à eux abondamment. Comme jadis, les prophètes étaient ceux que Dieu honorait de sa plus grande communication. C'est pourquoi il est dit ici, « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Secondement, c'est une tâche, une tacite opposition du Nouveau Testament à l'Ancien. Le prophète voulant dire que le commun du peuple chrétien aura cet avantage sur le peuple de l'Ancien Testament, qui seront comme prophètes. Les surpassant autant la connaissance des secrets de Dieu que jadis, ceux auxquels Dieu se communiquait par songe et vision surpassaient le reste du peuple. De même, il est dit en Jérémie 31, touchant le temps du Nouveau Testament, « Un chacun n'enseignera plus son prochain, ni un chacun son frère, disant « Connaissez l'Éternel !» Car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » Ce qui n'est pas à dire absolument qu'au Nouveau Testament, il n'y aura plus lieu d'enseigner, vu qu'au contraire, Jésus-Christ y a donné des pasteurs et docteurs pour l'œuvre du ministère. Mais c'est à dire que le commun du peuple chrétien aura telle connaissance qu'il surpassera ce que les docteurs d'Israël pouvaient enseigner au peuple sous l'Ancien Testament, tellement qu'à comparaison de ce qu'on savait sous la loi, ils n'auront pas besoin de docteurs. Jésus-Christ confirme cela quand il dit que le moindre au royaume des cieux sera plus grand que Jean-Baptiste. Car dans les écrits du Nouveau Testament, le royaume des cieux et le règne du Messie, c'est-à-dire l'état de Jésus-Christ révélé par l'Évangile. En ce règne donc, le moindre sera plus grand que Jean-Baptiste. Encore que Jean-Baptiste fut le plus grand de tous les prophètes, c'est-à-dire les surpassa en connaissance. Car, tout comme les mystères de Dieu n'ont été connus que par leur accomplissement, comme d'ordinaire, les prophéties ne sont guère entendues que quand elles s'exécutent. L'homme qui a vécu en l'Église depuis l'ascension de Jésus-Christ au ciel et l'envoi du Saint-Esprit et la vocation des païens a plus connu que Jean-Baptiste, lequel n'avait vu que le commencement des jours de la chair de Jésus-Christ, le commencement de son enseignement sur cette terre, et non sa mort, sa résurrection, son ascension, sa gloire et la vocation des païens. Voyez-vous donc ici votre avantage, chrétien ? Connaître Jésus-Christ livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Connaître la charité immense par laquelle Dieu n'a point refusé Jésus-Christ à la mort pour les hommes. C'est avoir pénétré dans les cieux. C'est avoir eu communication des secrets de Dieu. C'est avoir vu dans le sein du Père ce qu'il avait de plus intime et plus secret, comme Jésus-Christ disait, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait ce que son maître sait, mais je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » « Nul ne vit jamais Dieu, dit saint Jean, le Fils unique, qui est au sein du Père, lui-même l'a révélé. » Oui, chrétien, tu vois Dieu, quand tu vois la charité par laquelle il a donné son Fils pour nos péchés, car Dieu est charité. Or, ce qu'il a livré son Fils à la mort pour les hommes est le degré de charité le plus haut et le plus sublime qui puisse être conçu. En avoir la connaissance est avoir surpassé la science que les anges avaient eue avant la venue du Christ, comme l'apôtre enseigne, disant que la sagesse de Dieu est donnée à connaître aux principautés et puissances qui sont dans les lieux célestes par l'Église, c'est-à-dire par la révélation que Dieu en a faite en l'Église. Vous voilà donc, chrétiens, tous devenus des prophètes de Dieu par la connaissance de si hauts mystères et par l'intime communication que vous avez eue de Dieu par son Esprit, car il vous a révélé ces choses profondes et ses intentions, comme dit l'apôtre. Et il est parlé de tous, fils et filles, jeunes et vieux, car en l'Église chrétienne, quiconque est en âge de discernement, de quelque condition qu'il soit, reçoit la connaissance de ce haut et sublime mystère de Christ, le Fils de Dieu, crucifié pour les péchés du monde et élevé au ciel pour nous y préparer un lieu. Et si les prophètes voyaient les choses futures des siècles à venir, vous avez, chrétiens, la connaissance des choses futures, à savoir du royaume et de l'héritage céleste que Dieu vous prépare au siècle à venir. Vous avez par l'esprit de sagesse et de révélation les yeux de votre entendement illuminés afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Pénétrez par votre espérance jusque derrière le voile où Jésus-Christ est entré comme avant-coureur pour vous. Or, quand vous voyez ici que Dieu, parlant des songes, visions et prophéties, exprime la manière dont il se communique à nous sous l'Évangile, par la manière de laquelle il se communiquait aux anciens, vous avez à remarquer le style de l'Écriture qui exprime par l'état et condition de l'Église en certain âge, l'état et condition de l'âge subséquent. Encore qu'il y ait beaucoup de différences, comme par exemple les prophéties, par semblable façon de parler à celle de notre texte, promettait la conversion des hommes et leurs bonnes œuvres sous le nom de sacrifice, leurs actions de grâce à Dieu et louanges sous le nom de jeunes bœufs et de parfums, et le ministère de l'Évangile sous les noms de l'administration du tabernacle et de l'emploi de ses ustensiles, comme de cuire la chair de sacrifice dans les chaudières et parfums. Ainsi que cela se voit dans le livre de Zacharie au chapitre 14, versets 20 et 21, la raison est que le ministère de l'Évangile et le service spirituel tient lieu de cela, et que ces choses-là en étaient le type, l'ombre et la figure. Donc, la communication de l'Esprit de Dieu par l'Évangile est proposée sous le nom de vision et songe prophétique, parce qu'elle en tient le lieu et que cela en était le type et l'ombre. Warsh dit que ce qui est récité dans le livre des Nombres, au chapitre 12, du grand avantage que Moïse avait par-dessus les anciens prophètes de voir Dieu face à face, au lieu que Dieu ne se communiquait aux autres prophètes que par songe et vision, nous est devenu commun. Il a été la figure de la communication que Dieu nous donne de soi au Nouveau Testament. Vu que l'apôtre dit que Dieu nous donne illumination de la connaissance de sa gloire en la face de Jésus-Christ et que nous tous contemplons la gloire du Seigneur à face découverte. Ainsi avez-vous entendu, mes frères, l'explication de notre texte. Mais il contient encore quelques doctrines qu'il nous faut recueillir. Premièrement, apprenez quelle est l'Église qui a le Saint-Esprit. Selon la croyance de l'Église romaine, vous diriez que l'Église qui a le Saint-Esprit pour la connaissance des mystères de religion n'est que le corps des prélats et docteurs. Mais en notre texte, vous voyez que l'Église qui a le Saint-Esprit est toute chair, hommes et femmes, fils et filles, tous fidèles de quelque sexe et condition qui soit. Ce n'est pas une grâce particulière aux charges et ordinations, mais c'est l'effet général de l'élection de Dieu et de régénération. Quiconque est de Dieu entend et parle les paroles de Dieu. Toutes les brebis de Jésus-Christ entendent sa voix et la discernent avec celle de l'étranger. Et Jésus-Christ déclare qu'il est impossible que les élus de Dieu soient séduits, et même lorsque les docteurs s'égarent. comme du temps des scribes et pharisiens. Dieu a ses serviteurs et servantes qui sont enseignés de lui et qui sont sa vraie Église. 2. D'ici aussi, apprenez que les fidèles et particuliers en l'Église de Christ ne prennent pas la certitude de leur foi de dehors, à savoir de l'autorité de leur docteur, comme en l'Église romaine, les hommes bâtissent leur foi sur l'autorité de l'Église, car tout fidèle étant prophète, le même esprit qui inspire et assure les docteurs habite en eux. Partant, ils ont le même principe qui persuade l'âme qu'ont les docteurs, et par conséquent la même certitude, car l'Esprit de Dieu fait l'impression de la loi de Dieu et de son efficacité divine dans les cœurs, selon les paroles que vous avez entendues ci-dessus de Jérémie 31. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et l'écrirai en leur cœur. » 3. Et si Dieu appelle tout le peuple chrétien, fils et filles, hommes et femmes, jeunes et vieux, à la participation de son esprit et connaissance de ses mystères, combien est éloignée de raison la pratique romaine de tenir le peuple en ignorance tant par l'usage d'un langage inconnu que par le refus de la liberté de lire les Écritures. Ce n'est pas, disent-ils, au commun peuple et aux filles et femmes de savoir les Écritures, mais au peuple chrétien, hommes et femmes, fils et filles, Dieu veut que vous soyez ses prophètes. Or, comment le seriez-vous en ignorant les Écritures ? 4. Mais vous, fils et filles, jeunes gens, qui vous prétendez dispenser par l'âge de vous employer dans les choses de Dieu et de vous appliquer beaucoup à son service, qui croyez avoir privilège par votre jeunesse de suivre le luxe, la vanité et les plaisirs de la vie, venez ici apprendre que Dieu vous a consacré à soi pour être ses prophètes. En l'Église de Christ, il n'y a point d'exception. Il faut que tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, soient sanctifiés à Dieu pour connaître et faire sa volonté. Jeunes enfants, je vous écris, disait saint Jean, parce que vous avez connu le Père. Père, je vous écris, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous écris, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez surmonté le malin. 5. Vous donc, enfants, apprenez que vous devez maintenant accomplir ce qui est dit, que de la bouche de ses enfants, Dieu tire sa louange. Ô Père, apprenez ici à rendre par soigneuse instruction et par bons exemples vos enfants, les prophètes de Dieu. Car pensez-vous que la prédiction de Joël s'accomplisse sans moyen et sans que vous interveniez envers vos enfants par votre labeur ? Il faut que ce soit par vos enseignements et bons exemples que vous puissiez dire ce qui est dit en Ésaïe 8, « Me voici et les enfants que Dieu m'a donnés. » Et que dirons-nous ici des familles où les enfants apprennent toute ordure et saleté de leur père et mère, toute médisance et toute impiété, toute injustice et toute vanité ? Telle famille se retranche par cela, du nombre et du corps des prophètes de Christ. 6. Et vous, vieilles gens, prenez ici pour consolation de votre âge que vous êtes fait participant d'un esprit qui ne vieillit point, dont la lumière et l'efficacité ne diminuent point par l'âge, ainsi que diminue l'efficacité de la vie animale. Voici en l'Église de Christ un esprit qui renouvelle les anciens et les remplit de vigueur, qui ravivent leur esprit et leur sens pour prophétiser, connaître, juger et bien parler des mystères de Dieu. Par votre âge, vraiment, l'homme extérieur s'affaiblit, mais par l'esprit qui vous est donné, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. 7. Et vous, filles et femmes chrétiennes, montrez par la piété de vos propos et votre entretien, par toute modestie en vos vêtements et honnêteté en vos actions et comportements, que votre sexe a la gloire d'être entre les prophètes de Dieu, et que vous êtes ce que Jésus-Christ s'est consacré en la terre pour sa louange et sa gloire. Que si vous ne renoncez pas au luxe, vanité, ordure du monde, sachez que Jésus-Christ vous renonce et que vous êtes possédé par un esprit contraire au sien, à savoir par l'esprit de ce monde, esprit de perdition et de mort. 8. Mais puisque tous, fils et filles, hommes et femmes, jeunes et vieux, sommes le prophète de Dieu, considérez en commun quelle était la condition des prophètes. Les prophètes étaient personnes consacrées à Dieu, en raison de quoi aussi les oints et les prophètes sont même chose. Dieu disant, ne touchez point à mes oints, et ne faites nul mal à mes prophètes. Or, comme vous le savez, l'onction de jadis signifiait une consécration à Dieu. Que donc, mes frères, nous soyons consacrés à Dieu, nous séparons de la corruption du monde en convoitise, et ne touchons à chose quelconque condamnée de Dieu, soit en fait de mœurs, soit en fait de religion. Nous sommes les prophètes de Dieu. Nous ne pouvons participer aux services et aux cérémonies des religions du monde. Nous sommes consacrés à notre Dieu pour le servir et adorer seul en esprit et en vérité. Et apprenez, mes frères, que vous êtes appelés prophètes non pour taire et simuler ce qui est de votre foi et religion, mais pour le dire et déclarer, car prophétiser, c'est parler. Si donc les prophètes publient la bonté de Dieu et annoncent sa parole, sachez que nous sommes appelés à confesser le nom de Dieu devant les hommes en toute façon, à savoir par parole et par action. Les prophètes enseignaient les autres, que donc la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse, en vous enseignant et avertissant l'un l'autre par psaume et louange, comme dit l'apôtre. Prophétisez et enseignez les ignorants, fortifiez les infirmes, corrigez les déréglés, ramenez les égarés, redressez ceux qui sont tombés et consolez les affligés. En un mot, c'est briller devant les hommes, de sorte que ceux-ci, voyant nos bonnes œuvres, glorifient notre Père qui est dans les cieux. Mais, mes frères, où est cette vie et ces actions de prophète? Où est cet esprit que Jésus-Christ répandu au jour de la Pentecôte? Se voit-il beaucoup parmi nous? Mais combien paraît parmi nous l'esprit de ce monde en toutes sortes de péchés et en toutes sortes de personnes? Hommes et femmes, fils et filles, jeunes et vieux, montrent parmi nous les œuvres de la chair, car n'y voit-on pas un luxe débordé et toute vanité, inimitié et médisance, paillardise et souillure, injustice, inhumanité et esprit de vengeance? Où sont ces choses-là sinon de l'esprit malin, l'esprit immonde? Sachez donc, mes frères, sachez que l'esprit est opposé à tout vice et toute ordure. Pour l'exemple, l'apôtre, parlant contre l'ivrognerie, oppose à cela l'esprit. « Ne vous enivrez point de vin où il y a dissolution, dit-il, mais soyez remplis de l'esprit. » Et parlant contre la paillardise, il oppose à cela que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et saint Pierre, aux vanités de la parure et des vêtements, oppose l'ornement de l'esprit, disant, touchant les femmes chrétiennes, que le parement ne soit point celui-là de dehors, qui gît en entortillement de cheveux ou parure d'or ou accoutrement d'habits, mais l'homme qui est caché, à savoir celui du cœur qui gît en l'intégrité d'un esprit doux et paisible, qui est de grand prix devant Dieu. Si donc l'esprit est généralement opposé à tout vice, quel nous faut-il être si nous voulons nous pouvoir dire participants de l'esprit? Pensons à ces paroles de l'apôtre. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous mortifiez les faits du corps, vous vivrez. Et qui sème à la chair moissonnera de la chair corruption. Mais qui sème à l'esprit moissonnera de l'esprit vie éternelle. Mais ici, j'espère que, étant désireux de cet esprit, qui est si nécessaire, vous me demanderez quel moyen il y a de l'obtenir. Si vous faites cette demande du profond de vos cœurs, prenez courage. Le moyen de l'obtenir consiste en deux choses, dont l'une nous est montrée en notre texte, et l'autre au sacrement auquel nous sommes appelés. En notre texte, Dieu dit qu'il répandra son esprit sur ses serviteurs et servantes. C'est donc à dire que Dieu ne refuse point cet esprit à ceux qui ont désir de le servir, mais seulement à ceux qui aiment mieux l'ordure du vice que son service. Si quelqu'un veut faire la volonté de celui qui m'a envoyé, dit Jésus-Christ en Jean 7, il connaîtra la doctrine si elle est mienne. Et en Jean 14, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et demeurerons chez lui. Dieu profanera-t-il son esprit en le logeant dans des âmes impures qui se plaisent au vice et en l'ordure et qui ne désirent point cet esprit? Venez donc, pécheurs, vous affligez de vos péchés, ayez-en du chagrin de votre corruption et désirez ardemment l'esprit de Dieu et vous l'obtiendrez. Ayez-en faim et soif et vous serez rassasiés. Demandez-le d'un cœur contrit et humilié, et vous le recevrez. Car, dit Jésus-Christ, si vous qui êtes mauvais savez donner à vos enfants choses bonnes, combien plus votre Père céleste donnera-t-il son esprit à ceux qui le lui demanderont? Nettoyez vos cœurs pour recevoir cet hôte divin. Ôtez les ordures qui y sont, les péchés contre la conscience, la négligence du service de Dieu, et il viendra à vous. Voici, il frappe, ouvre-lui ton cœur par repentance et il entrera. Autrement, vous lui résistez, vous lui fermerez l'entrée de vos âmes d'un endurcissement volontaire. Sache donc, ô homme, que le jour auquel tu t'humilieras et crieras à Dieu sérieusement sera le jour de ta Pentecôte, c'est-à-dire auquel le Saint-Esprit te sera donné. Que si tu as laissé comme mourir et éteindre cet esprit en toi, fais comme tu ferais si tu voulais rallumer un feu qui s'éteindrait. Tu soufflerais avec peine et soin. Le souffle qui était si requis de toi sont tes soupirs à Dieu et tes prières, et par cela assurément tu rallumeras ce feu sacré, et comme une flamme en produit une autre, si tu as par tes prières et ta repentance rallumé cet esprit, il ira croissant en toi, car à celui qui a, il lui sera donné. L'autre moyen d'obtenir le Saint-Esprit, et qui nous est donné au sacrement, auquel nous avons à participer, est la contemplation de Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire d'un côté la méditation de l'horreur du péché, pour lequel il est fallu que le propre Fils de Dieu vint ici-bas souffrir la mort de la croix, et d'autre côté, la méditation de la charité de Dieu immense, par laquelle Dieu a livré son Fils à la mort pour nous. Imprime en ton esprit, ô homme, cette dilection de Dieu admirable, et tu sentiras par cette impression-là un amour réciproque se former en toi envers Dieu. Tu te sentiras ému à aimer celui qui a tant aimé. Crois l'amour de ton Dieu, toi qui se présente à toi comme Père, et tu sentiras se former un esprit d'adoption dans ton cœur, par lequel tu lui crieras « Abba, Père !» Et comme lorsque Corneille, le centenier et sa compagnie reçurent la prédication de Saint-Pierre, l'Esprit descendit sur eux. Si vous recevez par la foi ce que l'Évangile et le sacrement vous présentent, le Saint-Esprit descendra en vos cœurs et scellera votre foi par une vraie sanctification et paix de conscience, et vous sera l'art de l'héritage jusqu'au jour de la rédemption. Ainsi soit-il.